Alors j'aimerais que nous lisions ensemble un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Et nous allons lire des versets 24 à 35. Luc chapitre 7, versets 24 à 35. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à table à la foule. Pardon, excusez-moi, je recommence. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui ressemble-t-il? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un habit des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Dans ce passage, alors que dans le paragraphe précédent, des disciples de Jean le Baptiste, qui s'étaient retrouvés en prison, étaient venus pour s'enquérir de la personne de Jésus, au nom de Jean le Baptiste d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Jean le Baptiste avait annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais alors qu'il se retrouve en prison, il est comme pris d'un doute. Et il envoie ses disciples en disant « Es-tu celui qui doit venir ?» Et on peut imaginer que Jean le Baptiste ne pensait pas que son histoire personnel se terminerait ainsi, qu'il se retrouverait en prison. Peut-être qu'il il aurait peut-être espéré être devenu un disciple de Jésus lui-même, ou en tout cas le suivre de loin, et puis voir un peu ce qui allait se passer. Mais non, il se retrouve en prison, et puis nous connaissons sa fin. Et donc il y a un doute, et il vient poser la question à Jésus, et Jésus lui répond, je réponds aux disciples de Jean le Baptiste en disant, voilà, il y a des miracles, etc., etc., et donc il vient confirmer qu'il est lui-même le Messie. Et Jésus profite de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'intervention des disciples de Jean le Baptiste et puis sa propre personne. Et puis il va parler maintenant des pharisiens et comment les pharisiens ont vu le ministère de Jean le Baptiste et comment les pharisiens ont vu le ministère de Jésus, ou voyaient le ministère de Jésus. Et pour cela, Jésus va utiliser une coutume locale pour illustrer son propos. Il dit avec qui je vais comparer l'attitude des pharisiens ou cette génération. Et il parle à des enfants qui parlent entre eux et qu'ils disent nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. À l'époque, certains enfants dans les places publiques, dans les villes, et c'était autorisé, hein, c'était une coutume, pour se faire un peu d'argent. Lorsqu'il y avait un événement, ça pouvait être un mariage, ça pouvait être une autre fête, ben ils se mettaient, eux-mêmes étaient sur les places publiques, et ils se mettaient à jouer de la musique pour faire plaisir à ceux qui participaient à telle ou telle festivité, et on leur donnait un peu d'argent. Et puis il dit ensuite, nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Et là, c'était les mêmes enfants qui, en d'autres occasions, les obsèques, se mettaient à, un peu comme les pleureuses dans certains pays, se mettaient à chanter des complaintes pour aider les gens à pleurer leur mort. Donc on voyait qu'ils avaient une attitude, enfin, ils avaient une coutume de chanter pour se faire un peu d'argent avec ceux qui faisaient la fête, et de chanter des complaintes pour se faire de l'argent avec ceux qui enterraient leurs morts. La seule chose, c'est que là, dans cette histoire, les enfants chantent pour une fête, mais les autres ne chantent pas. Et puis, à un moment donné, ils chantent des complaintes pour des obsèques, et les gens ne pleurent pas. Donc, les enfants ne comprennent pas. Et ces enfants, ce sont les pharisiens. Ce sont les pharisiens qui, en réalité, ne sont jamais contents et ne voient pas l'œuvre de Dieu en action. Lorsque Jean-Baptiste était libre et qu'il pratiquait son ministère, qu'il exerçait son ministère, il l'a exercé d'une manière complètement différente de Jésus. Jean-Baptiste vivait dans le désert, Jésus a très souvent été devant les foules, en ville, dans le temple. On ne voit pas Jean-Baptiste dans le temple, par exemple. Il a en effet été à des repas parmi les publicains, et, voilà, avec les gens de mauvaise vie. Il avait aussi un discours qui était parfois aussi assez dur, comme celui de Jean-Baptiste, mais aussi il présentait la miséricorde et le pardon de Dieu plus qu'une fois. Jean-Baptiste, lui, avertissait sa génération en disant « Vous devez vous repentir ». Et là, il baptisait les gens. Jean-Baptiste était un ascète. Il était habillé avec la peau d'un animal, un peu comme Élie. Jésus, lui, était très bien habillé, mais très classe, même des vêtements assez chers. On le sait grâce à la description qui nous est faite de cette femme, vous savez, qui avait des pertes de sang et qui veut toucher le pan de la robe de Jésus. En grec, ça parle d'un pompon. Et en fait, c'est seuls les gens qui étaient riches avaient des toges avec des pompons. Donc c'est un habit très luxueux. On le voit aussi à la croix lorsque les Romains n'ont pas voulu déchirer la tunique de Jésus, puisque les pauvres, en général, achetaient des bouts de tissu, je dirais, dans les marchés. C'était les rebuts des autres couturiers. Et avec ces petits bouts de tissu, ils les cousaient pour faire des habits. Alors que les riches avaient des habits qui étaient faits dans une seule pièce de tissu. Ce qui fait que si les Romains ont joué sa tunique au sort, c'était pour pas justement la découper, ils trouvaient ça dommage de découper une belle pièce de tissu comme ça. Donc on voit que Jésus n'a pas eu du tout le même ministère dans sa forme, voire des fois dans son message aussi. On peut penser que Jean-Baptiste avait aussi un tempérament, un caractère différent de celui de Jésus. Bref, ils étaient différents. Mais les pharisiens, eux, ne sont pas contents. On connaît leur discours légaliste, on sait qu'ils ont la main lourde, qu'ils aimeraient bien qu'une femme soit lapidée, qu'ils ils comprennent pas ce que c'est que la miséricorde. Ils font porter un joug sur les gens qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter, Jésus dit, et qui d'ailleurs, ils essayent même pas de porter. Hein, ce sont les bons religieux qui disent « voilà ce que vous devez faire, mais moi, je prends pas ce joug ». Et Jean-Baptiste, lui, je dis pas qu'il était pharisien, mais il avait un discours qui était dur aussi. Mais les pharisiens n'ont pas aimé. Jean-Baptiste encourageait les gens à se repentir de leurs péchés. Ben, ça plaisait pas aux pharisiens. Et puis Jésus, lui, avait plutôt un ministère, un discours. Il va annoncer la croix, petit à petit. Déjà, Jean-Baptiste a dit de lui qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le message du pardon, ça plaisait pas aux pharisiens non plus. En d'autres termes, ils n'avaient pas envie de pleurer en même temps que les complaintes tristes, c'est Jean-Baptiste, et ils n'avaient pas envie de chanter avec les chants de Jésus, et ça c'est le ministère de Jésus. Ils ne sont pas contents. Et ça c'est la caractéristique de quelqu'un qui pense ou qui opère selon sa sagesse. C'est-à-dire qu'il est, vous vous rappelez le niveau, je vous avais parlé en début de semaine, il y a deux niveaux, il y a le niveau terrestre et le niveau céleste. Si on essaye d'œuvrer dans le champ de Dieu, alors qu'on est en réalité sur le champ de la terre, ça ne va pas fonctionner. On va toujours être frustré. On va se décourager quand les gens ne marchent pas suffisamment dans la piété. Et puis, on ne va pas se réjouir quand les gens se réjouissent. On ne va pas être édifiant. On va toujours être critique. On va toujours voir les points négatifs. On va toujours penser que les gens n'en font pas assez. Ou alors on va penser que les gens en font trop. Bref, on va mettre Dieu dans une boîte. Et ça, c'est le contraire de la sagesse. Quand on commence à mettre Dieu dans une boîte. Les pharisiens n'acceptaient que les gens qui étaient conformes à leur boîte. Si c'était Jean-Baptiste, ça n'allait pas. Si c'était Jésus, ça n'allait pas non plus. Et là, Jésus est en train de dire, mais alors, faut vous décider. Il y en a un qui va dans une certaine direction et l'autre qui va dans une autre, et ça ne vous convient pas. Vous, ni vous chantez, ni vous pleurez. Vous vous rebellez en permanence. Et aujourd'hui, l'application pratique, c'est dans l'Église, dans nos familles, vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Comment nous discernons l'œuvre de Dieu? De quelle manière? Est-ce que nous regardons ou nous considérons l'œuvre de Dieu comme les pharisiens voyaient Dieu dans une boîte? C'est voilà comment le processus doit se faire. Donc si une personne est convertie en telle date, dans 6 mois, elle doit être mûre à tel niveau, dans 1 an à tel niveau, dans 2 ans à tel niveau, si ça va pas, je rejette. Il faut passer par ce chemin. Alors, je dis pas qu'il faille pas avoir des principes et des organisations. On parlait d'instituts bibliques. Bon, nous avons des instituts bibliques parmi nos églises, très bien. Mais il peut y avoir, en cours du soir, par exemple, il peut y avoir d'autres formes, d'autres moyens. Chaque union d'église, chaque église, chaque chrétien doit faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour leur vie, dès l'instant que ça ne va pas au-delà des bornes que constituent les Écritures. Mais les formes ne comptent pas. En réalité, les couleurs, j'allais dire, ne comptent pas. Les habitudes, je veux dire, l'histoire de l'Église a évolué. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, je crois que c'est au IIIe siècle, vous ne pouviez pas rentrer dans une réunion comme celle-ci sans être habillé en blanc. Voilà, les chrétiens étaient purs et il fallait qu'ils manifestent cette pureté. Et d'ailleurs, à Paris, où il y a d'innombrables églises, voire sectes, enfin, il y a tout le panel. Il y a des églises où j'étais une fois invité dans une assemblée où, vous savez, c'est en banlieue parisienne, où vous avez plein de bâtiments un peu comme celui-ci. Un marchand de biens a des grands terrains industriels et puis il loue à 10 églises le même jour. Donc, et j'étais arrivé, il y avait des femmes habillées en blanc, pieds nus, et qui se rendaient dans une célébration. Je connaissais pas leur doctrine, mais tout ça pour vous dire que, certains vont juger de la spiritualité de quelqu'un en fonction de la blancheur de son habit. Mais je ne crois pas que ça soit le symbole forcément de leur cœur. Et on sait que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Et bien entendu, qu'on doit s'habiller parce que c'est biblique, c'est écrit qu'on doit être modeste dans son accoutrement, faire attention, pas essayer d'attirer les regards sur soi en permanence. Donc ça, c'est oui un trait de caractère de Christ, c'est l'humilité, la modestie. Donc on est conscient de cela. Mais après, où est la limite, c'est difficile de l'évaluer. Mais surtout, c'est de réaliser que la justice de Dieu va bien au-delà de la petite boîte dans laquelle je me situe, et qui d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout de l'idée, c'est peut-être ma boîte, et c'est la boîte qui me convient pour moi. Tout ce qui n'est pas la conviction, une conviction est un péché. Donc je dois vivre en fonction de mes convictions. Mais je dois croire aussi que tout n'est pas résolu dans ma vie et que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu dans ma vie, je serais complètement infirme pour pouvoir servir le Seigneur. Ce serait pas possible. Qui peut se targuer dans cette salle de dire « je suis prêt pour servir le Seigneur, il y a tout ce qu'il faut, je suis équipé, je suis suffisamment sanctifié, il n'y a pas de péché dans ma vie, tout va bien ». Personne peut dire ça, personne. S'il n'y a pas la grâce de Dieu qui nous soutient, on est mort. D'accord? On ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Rappelez-vous Ésaïe chapitre 6, où lorsque le prophète voit la sainteté de Dieu, et où il dit, d'ailleurs c'est un des signes de la Trinité, c'est pas une preuve théologique, mais en tout cas c'est une indication, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, malheur à moi, car je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Lui qui est prédicateur, lui qui est prophète, lui aussi a des lèvres impures. Et que font les séraphins? Ils vont chercher les braises à l'autel et ils apportent la braise sur la bouche d'Ésaïe et voilà, ton iniquité est purifiée. Et où était la braise? D'où elle venait cette braise? Pas de la cheminée de la maison du quartier. La braise venait de l'autel où les sacrifices avaient eu lieu. C'est-à-dire que par le sacrifice de Christ, on est pur. C'est pas par ça. Son engouement à servir Dieu qu'Ésaïe pouvait être pur. C'était pas par ça. Son intégrité, son obéissance. Il peut obéir comme il veut, il sera jamais pur. On a besoin d'être purifié par Dieu lui-même. Et si à un moment donné on vit dans la culpabilité et qu'on a une mauvaise conscience, la seule façon d'avoir cette conscience purifiée, c'est pas par une pratique des bonnes œuvres. Sinon on rentre dans une histoire de balance en disant je fais des bonnes œuvres pour un peu atténuer ma culpabilité. Mais alors vous avez qu'à être musulman. D'accord? Parce que c'est exactement ça, c'est la balance. Non. C'est qu'on vient au trône de la grâce et on dit « Seigneur, je reconnais que ton sang me purifie de tout péché. » Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Le sang des animaux ne pouvait pas enlever la culpabilité, mais le sang de Christ nous purifie, purifie notre conscience de toute iniquité ou toute culpabilité. Et les pharisiens ne voyaient pas ça. Et puis d'autres autour d'eux, évidemment. Et c'est ce que Jésus veut communiquer ici. C'est que Dieu a une façon d'opérer qui peut être diverse. La sagesse de Dieu, elle est diverse. C'est-à-dire qu'il connaît, vous savez, la façon d'abord dont nous avons été créés. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a amené à la vie. Et nous avons un Dieu qui est un créateur. Et c'est extraordinaire de voir sa créativité. Déjà, quand je vous regarde, c'est incroyable la créativité physique déjà. Et on est 7 milliards et plus sur la Terre. C'est incroyable. Il sait aussi ce qui se passe dans notre corps, notre fatigue, nos capacités intellectuelles, ce que nous avons pu vivre dans notre corps physique, les maladies qu'on a pu avoir. Mais il connaît notre âge, bien entendu, il connaît le nombre de cheveux de notre tête, il sait quand est-ce qu'on sera chauve, il sait tout de ce concernant notre corps. Il sait aussi ce que l'on a subi, ce que l'on a vécu, des choses dont nous-mêmes ne sommes pas conscients, mais qui peut-être nous affectent encore, comme un réflexe pavlovien. D'accord, on ne sait pas pourquoi on réagit de telle ou telle manière en entendant tel mot devant telle ou telle personne, devant telle ou telle posture, mais peut-être ça, inconsciemment, nous avons des blessures inconnues que Dieu connaît. Et Dieu, sachant tout cela, connaissant notre avenir aussi, va travailler dans notre vie d'une manière personnelle. D'une manière personnelle. Et nous allons tous grandir d'une façon différente. Soit parce que l'œuvre de Dieu en nous sera différente, et puis certains d'entre nous vont accepter l'œuvre de Dieu, d'autres pas, d'autres moins, d'autres vont mettre plus longtemps à comprendre. Et ça, c'est le mystère, pour parler de mystère en restant dans la pensée de Pasteur Tony, c'est le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu agit d'une manière avec l'un et d'une autre manière? Je vous en ai parlé cette semaine avec Pierre qui dit « Bon, ok, je serai martyr, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» C'est la sagesse de Dieu que de... Et du coup, ça devient notre sagesse que de croire qu'il est bon que Pierre meure martyr pour sa propre vie, pour sa sanctification et pour l'œuvre et l'avancement du royaume de Dieu. Et il est bon que Jean vive jusqu'à 90 et plus années et qu'il meure, non pas d'une belle mort, parce que lui aussi a été martyrisé physiquement, mais en tout cas, il est par mort martyr en tant que tel. Et en passant vers 90 ans, il écrit l'Apocalypse. Ça peut aider. D'accord? Donc c'est un mystère, cela. Ça. Regardez, pensez au péché, on a parlé cette semaine, du péché de David. Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait que le roi d'Israël commette un meurtre? Absolument pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait que David vole la femme d'un autre, couche avec Bathsheba? Absolument pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait que David couvre, cache ce péché? Absolument pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec le fait que David ne se repente pas? Un mois, deux mois, trois mois, etc. Non, il n'est pas d'accord. Pourquoi a-t-il attendu un an? On s'est posé la question cette semaine. Mais parce que Dieu savait tout de David. Il savait ce qu'il lui fallait. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas juste, c'est le péché, il vivait dans l'iniquité. Et en plus, il était roi, il prenait décision, donc il parlait au nom du Seigneur, peut-être même qu'il priait, peut-être même qu'il grafouillait un psaume en passant. J'en sais rien. Pourquoi Dieu permettait ça? Parce que Dieu ne fonctionnait pas n'opérait pas selon la justice. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est injuste. Il opérait selon la miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Et pourquoi il pouvait opérer Dieu selon ce principe de la miséricorde? Ça ne veut pas dire que David n'a pas été châtié. Je vous l'ai dit cette semaine, Dieu châtie ses enfants. Mais parce que c'est Dieu qui a pris le péché de David concernant le meurtre d'Uri. C'est Dieu qui a pris sur lui le péché. Le jugement a eu lieu en Christ, il n'a pas été en David. Et à partir du moment où Dieu, dans sa sagesse et dans sa pleine connaissance, savait que l'œuvre de la croix allait arriver au bénéfice de David, qui lui croyait dans la venue d'un Messie et d'un Sauveur, eh bien, Dieu a traité ou s'est occupé de la vie de David à un deuxième niveau, pas au niveau de la justice terrestre, de l'égal, la loi de Moïse ou autre, c'est en fonction de la justice de Christ. Et comme Christ a pris sur lui le péché de David, la discipline a eu lieu, mais par contre, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa sagesse, il a fait ce qu'il a voulu, et c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il a pris la pénalité. C'est un peu comme si, toi, tu prêtes de l'argent à cette personne, et cette personne te le rend pas. Moi, je te rends la monnaie. Et je vais m'occuper de cette personne pour récupérer l'argent. Mais c'est mon problème. Toi, t'as pas à dire à cette personne, t'as pas rendu l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a été remboursée. Donc c'est plus son problème. Et elle peut dire, mais c'est pas juste qu'elle réclame pas l'argent. Oui, mais c'est mon problème. J'ai pris sur moi la dette. C'est moi qui l'ai prise. Donc je vis en fonction de la justice que j'ai exercée. C'est-à-dire que toi, tu peux pas dire que c'est injuste. Alors à la limite, tu peux dire, oui, mais c'est pas elle qui rembourse. Mais c'est pas ton problème. Parce que là, je me mets à la place de Dieu. C'est que devant moi, vous obéissez à ce que moi je décrète. Et moi, j'ai décidé de payer sa dette. Donc toi, la justice est satisfaite. Et c'est vrai que c'est pas bien de pas rembourser. Ben, je vais m'occuper de son cas à la manière dont je veux. Et puis, alors du coup, ben, peut-être que tu vas mourir sans rembourser l'argent. Et tu n'auras pas de récompense au ciel à cause de ça. Et une autre personne te fait le même coup. Je paye la dette. Et toi, je vais frapper à ta porte tous les jours et t'enquiquiner jusqu'à ce que tu me rembourses. Et tu vas dire, mais c'est pas juste parce que à elle, tu as jamais. Oui, mais toi, c'est comme ça que tu dois être traité. Je te connais. C'est de ça dont tu as besoin. Et donc, il n'y a rien de juste là-dedans si on compare. Il n'y a rien de juste. Et c'est pour ça que quand on regarde dans une assemblée les gens grandir en Christ, vous avez des gens qui, en quelques mois, ils passent pas sous la porte, là, il faut qu'ils se baissent tellement ils grandissent en Christ. Et puis d'autres, vous avez l'impression même qu'ils rapetississent. Tu te reconnais. Mais, et ça veut pas dire que c'est bien. Mais la question est, Dieu est sage. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, on reprend les personnes s'il faut, on leur parle, etc. Mais on exerce la sagesse de Dieu, qui est fondée sur la justice issue de la croix. C'est pour ça, quand on a lu, vous savez, dans Jacques, où il est dit que la sagesse est d'abord conciliante. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Dieu opère de telle manière à ce qu'il y ait le plus de conciliation possible entre les pécheurs et lui. Peut-être qu'une personne a besoin d'être graciée pendant, je pense à David. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était une grâce, mais peut-être que David avait besoin d'être consumé par sa culpabilité pendant un an avant d'envoyer Nathan. C'était exactement ça qu'il lui fallait, peut-être. Je n'en sais rien, en réalité. Mais ce que je sais, c'est que Nathan était envoyé au bon moment. Et je ne remettrai pas en doute cela. Mais le pharisien, lui, vous imaginez s'il avait vécu à ce moment-là et qu'il ait été au courant du péché de David? J'imagine qu'il serait intervenu dès le premier jour, et même il aurait demandé à ce que Absalom le remplace. Pourquoi Dieu a préféré Jacob? Enfin, il a, dans la Bible, c'est dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. En réalité, littéralement, c'est ça, mais ça ne veut pas dire ça, parce que la langue hébraïque est plus subtile, pas plus subtile, mais c'est écrit différemment. Dans la littérature sémitique, on utilise beaucoup les exagérations. Et c'est le contexte qui nous permet de discerner les subtilités. Nous avons beaucoup de mots qui vont de la gauche vers la droite. Mais en plus, Le vocabulaire hébreu est assez pauvre. Donc, lorsqu'on disait, par exemple, que quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », ça signifie en réalité que j'ai préféré Jacob à Ésaü. C'est pour montrer la différence. Jésus parle de la même manière lorsqu'il dit que si on ne hait pas, du verbe haïr, son père, sa mère, etc., et que vous ne me suivez pas, vous n'êtes pas digne de moi. Je veux dire, haïr ses parents, ça n'a pas de sens à partir du moment où Dieu nous demande d'honorer ses parents, etc. Mais ça parle de préférence. On doit préférer Dieu à nos parents, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les haïr. Et pourquoi Dieu a préféré Jacob à Ésaü? Parce qu'Ésaü a rejeté la justice de Dieu. C'est-à-dire, il a rejeté la justice du Messie. Il a rejeté la solution que Dieu avait pour nous rendre justes, à savoir le sacrifice, le Messie qui allait venir. Et lui, qui était en possession du droit d'aînesse, avait le privilège d'être l'ancêtre du Messie pendant un temps. Et à un moment donné, il a eu faim, il a opéré selon un monde terrestre, là pour le coup, et même physique, charnel, et il a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il a considéré comme presque insignifiant le droit d'aînesse au profit d'un plat de lentilles, ce qui montre qu'il n'avait pas la foi. Et à partir du moment où on n'a pas la foi, on n'est pas au bénéfice de cette justice que nous avons en Christ. Et pour bien montrer qu'il n'avait pas la foi, c'est que lorsque Ésaü a eu faim et qu'il a eu peur de mourir, est-ce qu'il avait des enfants? Non, il n'avait pas d'enfants. Donc il ne pouvait pas mourir. Puisqu'il avait le droit d'aînesse, il était l'ancêtre du Messie. Et donc, il ne pouvait mourir qu'une fois qu'il ait eu un enfant. Donc ça montre bien qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi dans le fait que Dieu allait susciter une descendance pour lui-même. Et donc, à la limite, tant qu'il n'avait pas d'enfant, il était sûr d'être resté en vie. Mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Et c'est pour ça que Dieu a préféré Jacob. Mais si vous faites la liste, bon, Ésaü, il n'a pas été terrible non plus, il s'est marié avec des païennes, etc. Mais quand vous voyez quand même la liste des péchés de Jacob, vous dites, c'est bizarre. Mais est-ce que Dieu s'est occupé de Jacob? Absolument. Jacob magouille, on va l'envoyer avec son oncle Laban, qui est encore plus magouilleur que lui. Il va apprendre ce que c'est. Il va apprendre la leçon. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il est le père de Jacob. Mais c'est Jacob qui va hériter du droit d'aînesse. Est-ce que c'est juste d'un point de vue terrestre? Non. Mais d'un point de vue spirituel, il a reçu la justice en Jésus-Christ. Et donc Dieu a traité son enfant comme il l'a voulu. Il a estimé, par exemple, que 7 ans avec Laban, ça suffisait pas. Il est resté 20 ans. Il lui fallait ça pour comprendre. Il a voulu une deuxième épouse. Eh bien, les 2 enfants de cette épouse vont le faire souffrir comme jamais. Il va croire que Joseph est mort pendant des années. Il va souffrir de cela. Il va croire que Benjamin ne reviendra jamais parce qu'il est otage en Égypte. Dieu va travailler dans la vie de Jacob. Mais il a préféré Jacob à Ésaü. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qui était Jacob et il a opéré selon la justice imputée en Christ. Et donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Pourquoi Dieu a agi avec Abraham de cette manière, en lui permettant d'aller en Égypte, d'accepter le deal de son épouse et d'aller vers Agar? Pendant près de, je crois, 12 ans, je ne suis pas sûr du chiffre, mais il n'a eu aucune communion avec Dieu, aucun autel avec l'Éternel. 12 ans de silence. Mais quand il est revenu, sous les chaînes de Mamré, ou ailleurs, il a recommencé les holocaustes. Et que s'est-il passé? Il a eu vraiment un fils avec sa femme, comme s'il n'en avait jamais eu avant. Et pourquoi je peux dire comme s'il n'en avait jamais eu avant? Comme s'il n'avait jamais commis ce péché avec Agar. Parce que quand il va lui demander son fils, Isaac, il va dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». On ne parle pas d'Ismaël, comme s'il n'existait pas. Comme si Abraham n'avait commis aucun péché. C'est son unique, c'est celui que Dieu voit. C'est quand même extraordinaire. Et Dieu a agi avec Abraham comme il l'a voulu. Pas selon la justice humaine, selon la justice reçue en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés, et donc Dieu est juste aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Christ a tout pris. Il a tout payé. Donc Dieu est juste. Et maintenant qu'il nous a donné la justice de Christ, il travaille dans notre vie, non pas en fonction d'une justice mosaïque, légale, intellectuelle, rationnelle, non, c'est en fonction de sa sagesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse veut toujours produire la vie. La sagesse veut toujours produire la vie. Et donc, la sagesse est prête à attendre, est prête à être miséricordieuse, à être pacifique, comme le dit Jacques, conciliante, exempte de duplicité, paisible, patiente. Ça, c'est la sagesse. Et cette sagesse est possible en Dieu parce que le Père est satisfait. La justice a été rendue. Et c'est pour ça qu'il a pu agir de cette manière avec quelqu'un comme Zachée. Le salut est entré dans cette maison. J'imagine la tête des pharisiens. Le salut est entré dans cette maison. Non, 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 ça va pas, quoi. Le salut, il est peut-être au tabernacle, quelque part, dans le temple, mais il n'est pas dans cette maison-là. Que s'est-il passé ? Il y a quelqu'un qui a cru et il a reçu la justice imputée de Christ. Et Dieu a décidé de lui pardonner. Et que s'est-il passé dans le cœur de cet homme ? Je vous parlais de Tite 2.11, la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Cet homme a voulu tout rembourser et plus. Il a voulu rembourser les gens qui l'avaient volé. Pourquoi Dieu a... Jésus-Christ a été miséricordieux vis-à-vis de la femme au puits ? Mais parce qu'elle a cru dans la justice du Messie. Et à partir de ce moment-là, cette femme a commencé à évangéliser. Il a tout dit sur ma vie. Oui, il savait tout. Jésus savait tout. Et il savait que... Enfin, Dieu le Père savait que c'est à cet endroit qu'elle allait recevoir la vie. Et qu'elle allait pouvoir la donner à d'autres. Parce qu'elle avait tellement reçu en abondance. On a cette femme adultère. Pourquoi Dieu a permis qu'elle soit pas lapidée ? C'était dans la loi de Moïse. Oui, mais parce que la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée, et c'est ce que Christ a voulu montrer. Certains commentateurs pensent que quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais levé la, péché lève la première pierre, pendant ce temps-là, Jésus se remet à genoux et il écrit avec son doigt dans le sable. Et là, vous n'oubliez pas qu'il y avait tous les religieux qui étaient là. Or, on le sait, la table de la loi était écrite avec le doigt de Dieu. Et certains pensent que c'est peut-être même les 10 commandements. C'est pas biblique ce que je dis, c'est une supposition. Mais en tous les cas, le geste montre que devant le doigt de Dieu, tout le monde est coupable. La loi a été donnée pour que tout le monde, toute bouche soit fermée. Et là, les bouches ont été fermées, les pierres ont été posées. Et ils sont partis un à un. Et Jésus-Christ a décidé d'exercer sa miséricorde parce que la miséricorde triomphe du jugement. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Et pourquoi ? Parce que la justice a été accomplie à la croix. Si la justice n'avait pas été accomplie à la croix, la miséricorde ne pourrait pas triompher du jugement parce que ce serait injuste. Mais comme la justice a été rendue en Christ, la miséricorde peut triompher du jugement. Ce qui fait que Christ peut dire à la croix au brigand, aujourd'hui même tu seras, enfin il n'a pas pu planter le doigt, mais aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Absolument pas. Mais le péché du brigand était en train d'être transféré sur Christ. Et ce qui fait que selon la justice de Dieu maintenant, Dieu pouvait faire miséricorde à qui il voulait, et notamment à quiconque croit. Et on voit ça en permanence, ce plaisir qu'a Dieu d'aller au-delà de ce qui est normal. Je rappelle Jacques 3,17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, rappelez-vous, ça veut dire on est transparent, elle est pacifique. La justice, la sagesse de Dieu, elle est pacifique. La justice, en tant que telle de Dieu, elle n'est pas toujours pacifique, parce qu'elle tue. Et elle tue tout le monde. La loi tue. On est tous coupables. Mais en revanche, la sagesse est pacifique, parce qu'elle va au-delà de la justice de Dieu en Christ. Elle est modérée. Dieu a été modéré avec David. Il a été modéré avec Jacob, il a été modéré avec la femme au puits, il a été modéré en permanence. C'est la sagesse de Dieu. Elle est conciliante. elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Et lorsque Pierre a parjuré en disant qu'il ne connaissait pas Christ alors qu'il avait été averti, qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a rappelé. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Et quand il est dit que la sagesse est pleine de bons fruits, d'avoir agi comme ça, d'avoir agi selon la sagesse du Père, lorsque Jésus a gracié cette femme au puits, gracié la femme adultère, gracié Zachée, gracié Pierre, gracié Paul, est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits après, dans la vie de ces personnes? Bon, certaines, on ne sait pas, la femme adultère, on ne sait pas, il dit simplement « va et ne pêche plus », on peut croire qu'elle ne l'a plus pratiqué son péché, mais sinon, la plupart du temps, est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans la vie d'Abraham? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans la vie d'Isaac? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans la vie de Jacob? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans la vie de David? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans la vie de Élie le déprimé, qui pensait être le seul à servir Dieu et qu'il était seul en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bons fruits dans toutes les Écritures? Oui, parce que la sagesse est justifiée par ses enfants. La sagesse est justifiée par ses enfants. Une sagesse qui envoie le Fils à la croix, qui paye pour nos péchés, et qui ensuite, ou même avant, mais en tout cas en fonction de l'œuvre de la croix, permet à la Trinité d'agir envers les pécheurs d'une manière qui n'est pas légale, qui va au-delà de la loi. Alors vous allez me dire, pourquoi Dieu a donné la loi? Ben, lisez l'Épître aux Romains. Elle a été donnée pour que tout le monde ait la bouche fermée. Elle n'a pas été donnée pour qu'on soit parfait. Elle n'a pas été donnée pour nous sanctifier. Elle n'a pas été donnée pour qu'on soit meilleur. Elle a été donnée pour que toute bouche soit fermée. Et c'est pour ça que les pharisiens ont eu la bouche fermée à un moment donné. Et à partir du moment où on a la bouche fermée, eh ben on dit, Seigneur, c'est à toi d'ouvrir la tienne. Et là, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Il envoie sa parole et elle nous régénère. Il envoie sa parole et elle nous sauve. Jean 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il envoie sa parole et nous sommes sanctifiés. Il permet le corps de Christ et nous grandissons ensemble. C'est la sagesse de Dieu qui va au-delà du timing, des choses préconçues, de la petite boîte, mais qui permet une éducation personnelle pour chaque enfant de Dieu. Dieu vous éduque personnellement. Bien sûr, il y a la notion de corps de Christ, il y a des principes élémentaires qui sont dans les Écritures, qui sont applicables à tous. Le problème, c'est que nous sommes tous différents, nous avons un passé différent, nous avons des difficultés différentes, et Dieu agit de façon juste à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il sait exactement quand on a besoin d'être encouragé, quand il a besoin de patienter avant de régler un problème dans notre vie. Il fait tout parfaitement. Et donc faisons attention, nous, de ne pas mettre les gens dans une boîte. Et vous savez, ça va dans les deux sens. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut être patient, il faut être avec certaines personnes, d'avoir la foi, parce que voilà, c'est lent. Puis d'autres, il faut les secouer. Parce que pour certains, ils ont besoin d'être secoués. Et celui qui est secoué dit « Oui, pourquoi, pasteur, t'es patiente avec celui-là ? » Toi, suis le Seigneur et je te conseille de régler ça dans ta vie rapidement. On est tous différents. Si on reçoit beaucoup de dons, il y a une exigence de Dieu dans notre vie. Si on a reçu beaucoup de paroles de Dieu dans notre vie, beaucoup de doctrines, il y a une exigence de Dieu dans notre vie. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on est passif en disant, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, et puis, en attendant. Non, non. Il y a une exigence. Mais par contre, il y a des différences entre nous. Pas parce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais nous sommes différents, et Dieu agit en nous de façon parfaite. Et nous devons croire qu'il y a une possibilité pour tout le monde de grandir, même si c'est lent, parfois. Parfois, c'est par saccade, par à-coup. Il y en a que dans l'Église, vous voyez, des fois, vous ne les revoyez plus, puis ils reviennent. Est-ce que c'est une bonne manière de vivre? Non. Mais la porte est ouverte. Il vaut mieux qu'ils reviennent plutôt que de continuer à regarder la télé ou d'être sur Internet. La porte est ouverte. Il faut être à l'image de Christ. Est-ce que Christ nous rejette quand on revient à lui? Jamais. Jamais. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce et non pas du trône du jugement. Vous savez, les pharisiens, ils avaient inventé une théorie. Parce que ça les gênait quand même, le siège de miséricorde. Vous savez, le propitiatoire dans le lieu très saint, ça les embêtait, ça. Hein, c'est l'endroit où tous les péchés sont effacés, il faut pas exagérer quand même, tu vois. Donc, ils avaient dit, ça c'est pas dans la Bible, hein, c'est la tradition historique qui nous le dit, enfin, les études historiques, c'est qu'en fait, ils disaient, non, Dieu s'assoit sur le siège de miséricorde pendant la Pâque. Et puis après, il va sur le trône du jugement. D'accord ? C'est qu'il faisait un Dieu qui était conforme à leur image, plutôt que se conformer à l'image de Dieu. Et donc, nous, nous avons l'assurance que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, du trône de miséricorde, du propitiatoire, c'est-à-dire l'endroit où le sang est là en permanence. Il nous couvre de nos péchés. Et dans cette boîte-là, dans ce coffre, dans cette arche où le sang était répandu, à l'intérieur, il y a la loi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a gravé la loi dans nos cœurs. Deuxièmement, il y a le pain de vie, la manne, qui nous nourrit jour après jour. Et il y a la verge d'Aaron, c'est la vie de résurrection. Et ça, c'est cette communion avec ces trois éléments-là qui fait que nous avons la vie et que nous l'avons en abondance. Que Dieu vous bénisse.